sujet de discussion.
Merci de nous retrouver sur les antennes de Radio de la Paix pour notre sujet de discussion du jour. Regard croisé entre deux générations sur la démocratie et la culture de la paix. Nous avons Madame Yaka Alou-Adeline, elle est de CDC, Yamsoukro, et puis Monsieur Béa Antoine. Madame, bonjour.
Bonjour, Monsieur Billet.
CDC, qu'est-ce que ça veut dire?
Déjà, merci de nous donner la parole. Le CDC, c'est le cadre d'échange et de collaboration qui est une ONG à but non lucratif, naturellement, appuyée par Indigo Côte d'Ivoire pour mener des activités de sensibilisation, de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Et moi, je suis devenue, par la force des choses, membre du CDC parce que je suis attachée de communication à la direction régionale de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Alors, en tant que démembrement du gouvernement, nous accompagnons cette ONG dans ses activités.
Et moi, M. B. Antoine, alors c'est quoi comme idéal pour vous, un CDC?
Le CDC, l'idéal pour nous, nous sommes une structure qui milite pour la paix entre les communautés en Côte d'Ivoire. Principalement à Yamsoukro, nous avons été instaurés pour lutter contre la violence, l'indifférence de la population dans les structures familiales. Nous nous battons au jour le jour pour la cohésion sociale entre les structures, entre les communautés vivant en Côte d'Ivoire.
Alors avec vous, on saura un peu quels sont les leviers qui permettent de maintenir la paix, en même temps quels sont les obstacles. C'est un échange, c'est un regard général. Nous avons des élèves avec nous, vous allez vous présenter.
Je me nomme Soumaoro Yassine Zainab, élève en classe de première C au lycée Mamie Adjoa de Yamsoukro.
Et je suis mademoiselle Anissa Roxane Emmanuela, élève en classe de terminale C au lycée Mamie Adjoa de Yamsoukro de même.
Nous avons un homme, un élève, présentez-vous.
Je suis M. Diabaté Yakuba David, élève en classe de terminale A au collège moderne de Yamsoukro.
Alors lui a déjà dit monsieur, hein, donc il s'est donné déjà la stature d'un grand. Alors on va commencer avec M. Béa Antoine, la définition réellement. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant la démocratie?
Bon, la démocratie, ce que nous devons comprendre, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir et qui l'exerce à travers une personne qu'elle choisit. Pour que cette démocratie s'exerce dans la paix, il faut que vraiment les structures qui animent la société soient sensibilisées à la culture de la paix pour aider les dirigeants à exercer cette politique de paix en Côte d'Ivoire.
Madame Yaka, en termes de stabilité, lorsqu'on regarde, on sait que le conflit est inhérent à la nature humaine. Mais aujourd'hui, quels sont les éléments qui peuvent permettre de stabiliser un pays en termes de paix, de culture de la paix?
Il y a l'inclusion.
L'inclusion.
Donc il faut associer toutes les couches socioprofessionnelles de la nation, toutes les communautés. Chacun a sa part à jouer. Et que ce soit au niveau des jeunes, des adultes, des différents responsables politiques, des différentes communautés de la Côte d'Ivoire et tout, vivant ici et tout. Donc c'est l'inclusion. Après, il y a aussi l'acceptation de nos différences. C'est cela, la cohésion sociale est basée sur l'acceptation de nos différences. Il faut accepter la position de l'autre. Il ne faut pas chercher à s'imposer à l'autre. Il faut accepter son avis et c'est de cette manière-là que nous pouvons y arriver. Nous pouvons arriver à conserver la cohésion sociale. Et quand la cohésion sociale et la solidarité sont vraiment de mise au cœur de la nation dans nos activités, je pense bien que nous pouvons arriver quand même à la stabilité. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République appelle de tous ses voeux. C'est pour cela qu'il a créé le ministère de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, qui œuvre aussi dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire à faire d'abord la promotion et à maintenir la cohésion sociale.
Finalement, vous avez parlé d'inclusion et de beaucoup d'autres facteurs, mais lorsque les intérêts s'exacerbent, lorsqu'on se rend compte qu'on veut défendre ses intérêts, comment ça se passe? Est-ce qu'à ce niveau-là, il est facile de préserver la paix?
En réalité, cela devrait être facile de préserver la paix parce qu'on peut défendre ses intérêts sans toutefois avoir recours à la violence. Il y a plusieurs manières de défendre ses intérêts. Alors, si nous sommes conscients de ce que tout ce que nous faisons contribue à la stabilité du pays, il faudrait que chacun prenne conscience de ses agissements, des discours, j'allais dire, voilà, que nous prononçons. Donc, il faut éviter les discours de haine dans la défense de nos intérêts. Il faut plutôt favoriser, prioriser l'intérêt général qui est le maintien de la paix et de la cohésion sociale pour que déjà même le développement vienne à nous. Nous avons en face de nous une jeunesse qui est dynamique, qui est ambitieuse, qui a un avenir tout brillant. Et nous, en tant qu'adultes, nous sommes vraiment amenés à contribuer, à les accompagner pour qu'ils puissent se réaliser et aussi apporter les pierres à l'édifice dans la construction de notre nation.
Sujet donc de discussion autour du regard croisé, culture de la paix en deux générations, les parents et les plus jeunes. Alors les filles, vous allez reprendre le micro pour nous dire aujourd'hui quel est votre regard, un regard général sur la scène politique ivoirienne.
Tant que jeune fille de la Côte d'Ivoire, je pense qu'actuellement la scène politique est plutôt calme. Il n'y a pas vraiment de tension. De notre côté, nous ne ressentons pas de tension et nous pensons que à l'aube des élections, tout ira bien et ceci serait vraiment profitable à notre jeunesse et aussi à toute la Côte d'Ivoire.
La jeunesse, justement, il faut bien qu'on en parle. Ce sont les jeunes qu'on instrumentalise, ce sont les jeunes qui sont utilisés pour la violence, ce sont les jeunes qui vont faire des campagnes.
Alors je pense que ceci c'est vraiment déplorable parce que la base de toute société, c'est vraiment la jeunesse, c'est l'éducation des enfants. Ces jeunes vont s'adonner à plusieurs fléaux de notre société, tels la drogue, la prostitution et tout. Et je pense que ceci n'est pas normal.
Avant de venir à Yacine, David, un regard.
Moi, je dirais que la jeunesse est plutôt calme pour le moment.
Plutôt comment ?
Plutôt calme, plutôt stable, on va dire. Stable pour le moment. Même si les esprits commencent à s'échauffer après la sortie de l'avocat de Nicolas Sarkozy, les esprits commencent à chauffer. Ben, je dirais qu'il faut rester comme les doyens Béant et Madame Yaka pour sensibiliser d'abord les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir d'un pays. Les jeunes, c'est la racine même du pays. En fait, pour diriger un pays, il faut d'abord avoir la jeunesse avec elle. Parce que la jeunesse, d'abord, même quand il y a des campagnes, c'est les jeunes en prend. Même quand il y a tellement, c'est les jeunes en prend. Donc, pour moi, la jeunesse doit être un acteur clé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aussi informer les jeunes, les sensibiliser sur l'acceptation des autres, comme Madame Yaka a dit, l'acceptation des autres, l'acceptation des différents d'autrui, et surtout insister sur la tolérance. La tolérance.
Alors les jeunes eux-mêmes se comportent comment selon vous lorsque vous les rencontrez, lorsque vous échangez? C'est vrai qu'on a des élèves, qu'on a des étudiants, qu'on a certains qui sont quasiment, on ne pourrait pas parler de chômage, mais sans activité. Quel est le regard sur le comportement de cette jeunesse?
Bon, moi je dirais que la jeunesse, elle est dynamique. Elle est dynamique. Elle attend juste, un bon leader, on va dire. La plupart des gens au chômage sont jeunes. Voilà.
Alors Yacine, avec vous, les jeunes qui ne font pas d'activité, qui ne vont pas à l'école, qui n'apprennent pas un métier, ils sont à la merci justement de ceux qui veulent bien les utiliser.
Je pense que les jeunes doivent d'abord développer l'esprit de l'entrepreneuriat afin de ne pas être des pions pour les hommes politiques.
Pour l'entrepreneuriat, ils ont besoin de formation.
Moi, je rêve d'une jeunesse dynamique qui n'attend pas forcément l'État pour avoir des opportunités de travail. Une jeunesse qui est tolérante, qui est solidaire.
Vous êtes nombreux. En même temps, la jeunesse aussi, c'est le divertissement. C'est beaucoup de choses. Un regard sur certains qui pratiquent le divertissement tout le temps. On a les réseaux sociaux aujourd'hui où on se met à danser, où on est toujours heureux.
Je pense que c'est vraiment très bien que les jeunes se divertissent. Mais cependant, il faut aussi faire attention à nos propos sur les réseaux sociaux et utiliser ces réseaux sociaux pour véhiculer des messages de paix afin d'être une jeunesse engagée pour une Côte d'Ivoire en paix.
Qui sera un véritable arbre de paix, monsieur Béant Antoine. On revient à vous pour savoir aujourd'hui quels sont les, je veux dire, le mot opératoire. Quel est le mot opératoire avec vous lorsque vous devez rencontrer des populations, des communautés? Quel est le discours et puis quelle est la réaction de ces populations finalement?
En fait, pour la culture de la paix, on ne passe pas par mille chemins pour aller vers les parents, pour les rencontrer. Nous allons rencontrer les différentes communautés comme ce que nous avons fait déjà. Nous allons vers les différentes communautés, les chefs de quartier, les chefs de village, les organisations des jeunesses, nous allons vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de les amener à s'accepter entre eux. Dans un premier temps, la culture de la paix, la cohésion sociale, quand on veut vivre en communauté, il faut apprendre à tolérer, à pardonner et à s'aimer. Parce que c'est ce que nous enseignons, puisque nous ne sommes pas loin des élections et nous savons ce que c'est que les élections en Afrique généralement et particulièrement en Côte d'Ivoire. Bon, si nous ne prenons pas le taureau par les cornes pendant qu'il y a encore temps, il sera très difficile de venir de faire le médecin après la mort. Parce que c'est ça qui est le problème. Il faut prendre les choses en main et au départ, enseigner à la population que ça ne sert à rien de se chamailler, ça ne sert à rien de faire des trucs de telle sorte que ça énerve l'un et l'autre et puis bon, vous vous en venez aux violences.
Alors, Madame voilà. Yaka, ce qu'on a pu remarquer justement, c'est qu'on est toujours en termes de renouvellement de processus de paix ou renouvellement de message de paix.
Oui.
Mais lorsque les familles, les communautés s'entendent,
oui.
On se rend compte que lorsqu'il y a année électorale,
oui.
Souvent des conflits ressurgissent.
Effectivement, ça devient compliqué parce que c'est un perpétuel recommencement et c'est une grande perte de temps pour nous, pour la nation elle-même. Alors, je pense que des fois, les gens ne jouent pas franc jeu. La population n'est pas forcément véridique dans ses actions. Et aussi, comme M. Béant l'a dit, il faut véritablement accepter de pardonner et de véritablement tourner la page de ce qui nous avait divisé autrefois par le passé. On décide de tourner cette page et on décide ensemble, comme un seul homme, de regarder vers l'avenir, de prioriser l'intérêt général
de la nation,
de penser à nos jeunes frères qui sont en train d'étudier, qui sont appelés à nous relayer, parce qu'en réalité la jeunesse est notre relais. Ils sont appelés à nous relayer, mais dans quelles conditions pourront-ils nous relayer si nous-mêmes, nous ne sommes pas francs, si nous n'acceptons pas de prioriser l'intérêt de la nation, l'intérêt général. Donc je pense que pour pouvoir véritablement passer à autre chose, c'est-à-dire de nous assurer nous-mêmes cette stabilité tant recherchée, c'est d'accepter véritablement de tourner cette page sombre de notre histoire et de s'accepter à nouveau tel que nous sommes au sein de nos différentes communautés et d'œuvrer ensemble pour que le développement que nous recherchons, que nous puissions l'atteindre.
Que pensez-vous de l'aspect économique, de l'assistance financière lorsque des populations sont exposées à la présence de vivre et de non-vivre? Tout cela, ça facilite aussi la façon de l'instrumentaliser.
Bien sûr, une jeunesse qui, sinon j'allais dire une population qui n'est pas active, est manipulable. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce que nous constatons et je pense que c'est ce qui motive les différentes actions des bailleurs, du gouvernement, des ONG à former, à organiser ces jeunes en groupement, en association pour qu'ils bénéficient véritablement d'une formation. Et après aussi, on voit dans quelle mesure les accompagner. Il est vrai que en plus de ce qui a été fait, beaucoup reste encore à faire au niveau de la jeunesse pour les accompagner, mais il faut déjà apprécier ce qui est fait. Les jeunes sont aujourd'hui appelés à, pour ceux qui sont déscolarisés, à aller s'inscrire dans le cadre de l'école de la seconde chance. C'est une nouvelle chance, une autre opportunité qu'on leur offre. Il y a aussi d'autres formations qualifiantes qui sont, j'allais dire, subventionnées pour leur permettre de se former. Même l'entrepreneuriat aujourd'hui, ils ont besoin d'être formés à l'entrepreneuriat. Il y a des formations basiques, classiques, qui entrent en ligne de compte dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a des opportunités de formation dans ce cadre-là pour ces jeunes. Alors, si nous poursuivons dans cet élan, si nous continuons, nous maximisons nos actions dans ce cadre-là, les jeunes, la population défavorisée, un peu délaissée, un peu oubliée, pourraient avoir de quoi à s'occuper sainement et à se prendre en charge. Ce qui pourrait aussi réduire énormément les risques de manipulation et autres.
Alors, on parle de culture de la paix de façon générale, avec nos dirigeants, avec les populations. Nous allons venir donc au cœur des populations elles-mêmes.
D'accord.
Comment organiser une certaine stabilité lorsqu'on parle de famille biologique, de petites familles entre nous, parce que là-bas aussi, Il y a pas mal de VBG, il y a pas mal de conflits. C'est un autre regard, Madame Yaka, avec vous?
Oui, déjà au niveau des familles recomposées, c'est cela. Déjà la famille...
Non, de façon générale.
De façon générale, d'accord. Au niveau des familles, que ce soit les familles nucléaires, les grandes familles élargies et autres comme nous le connaissons dans... chez nous ici en Côte d'Ivoire, dans nos différentes communautés, c'est déjà souvent on pense que la formation doit être exclusivement réservée aux jeunes et autres, mais les parents eux-mêmes ont besoin d'être formés à la parentalité positive. Au fait, les parents ont besoin d'être formés, ils ont besoin des fois d'être accompagnés, parce que une personne qui dans sa jeunesse n'avait pas reçu cette formation, qui devient par la force des choses parent, donc responsable d'un enfant ou d'un jeune, des fois lui-même il manque de repères et il fait avec les moyens qu'il a. Donc je pense que si on étend la formation, je ne parle pas forcément de la formation académique, mais il y a la formation sociale, il y a l'accompagnement qu'il faut. Accompagner ces parents-là pour qu'eux-mêmes ils puissent adopter les pratiques positives dans l'éducation de leurs enfants, dans l'accompagnement de leurs enfants, et aussi instaurer, adhérer véritablement à l'amour au sein des différentes familles. Pour éviter les différentes violences, connaître même les principes des choses pour pouvoir accompagner ses enfants, les éduquer correctement comme il le faut.
Monsieur Béon, la violence est culturelle, hein. Tout peut prendre forme dans la cellule familiale, parce qu'on a commencé justement une certaine violence qu'on la met à exécution lorsqu'il s'agit de se représenter ailleurs. Au sein de la famille, comment on doit avoir un fonctionnement plus calme?
Quand on est en famille, chacun doit connaître sa place dans une famille. Vous savez, en Afrique, nous avons... une éducation qui est propre à nous, les Africains. Le respect de la personne âgée. Quand vous respectez ce principe, en principe, il ne devait avoir pas de problème dans les familles. Parce que quelqu'un qui s'adresse à une personne âgée, avec respect, je ne pense pas qu'il puisse avoir autre chose que ça. Mm-hmm. Voilà. L'éducation que chacun de nous doit recevoir de sa famille, c'est apprendre à respecter le prochain. Et quand vous exportez ce comportement, quand vous sortez de votre famille et que vous êtes dans un milieu autre que votre famille et que vous adoptez ce genre de comportement, généralement, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes surviennent lorsque il y a d'autres comportements autres que ce que on nous a inculqué en famille. Ils viennent s'achoper et puis ça crée autre chose.
Je rappelle que vous allez revenir sur votre programme d'activité pour ces semaines. Qu'est-ce que vous avez prévu faire même pour ces mois? Les filles, venez avec nous. Alors, c'est un regard, hein, un regard personnel. Vous voulez que vous et vos parents aient quel genre de rapport? Parce qu'il y a ce qui est établi. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une communication descendante où les jeunes n'avaient plus rien à dire. Aujourd'hui, le monde évolue. Vous avez votre mot à dire dans la culture de la maison, dans l'environnement. À quels sont vos souhaits en termes de communication avec les parents? Et puis, comment ça se passe d'ailleurs, si on a une petite expérience à nous rappeler, à nous expliquer? Allez-y.
Ok. La communication entre les enfants et les parents est vraiment très importante. Je pense que, vu que le monde a évolué, maintenant, c'est plus le monde d'avant où les enfants n'avaient quasiment rien à dire sur le plan familial. Maintenant, je pense que les parents doivent impliquer les enfants dans la prise de décision.
Est-ce que vous pensez que l'enfant a le droit justement de tout dire, ou bien de refuser certaines choses, ou bien d'avoir toujours un mot à dire avec les parents? Selon vous, c'est quoi?
Je pense que c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression qui est là entre les parents et les enfants, mais les enfants doivent quand même rester polis. Ils doivent aussi obéir à leurs parents, mais les parents ne doivent pas leur donner des tâches qui sont au-delà de leur capacité physique aussi.
Alors aujourd'hui, on dit souvent que lorsque la communication est inexistante, c'est dans le téléphone portable, hein, que l'enfant va chercher les informations. Yacine, est-ce qu'il vous arrive d'aller avec un téléphone portable chercher quelques informations, et quand vous y allez, vous recherchez quoi?
Il m'arrive souvent d'aller chercher des informations concernant peut-être les mots que j'ai. Par exemple, quand je n'ai pas mes parents à côté de moi, si j'ai par exemple mal au bras, chercher sur Google, essayer de voir ce que j'ai. Mais quand je suis à la maison, je communique beaucoup avec ma mère. Quand c'est les problèmes intimes, elle m'aide, tout ça. Je pense que, en fait, le fait que ma mère m'écoute, ça crée une relation amicale entre elles.
Une certaine complicité.
C'est très important.
Alors, on a célébré le lundi 14, la journée à Yamoussoukro, mais de façon générale, la journée de la jeune fille, c'est le 11 octobre. Alors, quels sont vos souhaits pour la jeune fille en Côte d'Ivoire d'abord? Comment vous voulez justement que l'État, ou que les collectivités, ou que tout le monde mette la main à la pâte pour que les jeunes filles puissent passer à un stade supérieur? Quels sont vos rêves?
Moi, je rêve à une jeunesse féminine émancipée. Je pense que l'État doit encore plus encourager les femmes à l'initiative financière, travailler les coopératives. Par exemple, ils peuvent investir dans des coopératives de femmes qui vendent de la tchéké, ce qui est vraiment commun ici à Yamoussoukro. Les encourager à l'initiative personnelle et puis communautaire aussi.
Alors, vous rêvez de pratiquer quelle profession?
Moi, je rêve d'être experte comptable.
Alors, la voisine, vous, c'est quoi votre vision en termes de profession?
Alors, je rêve d'être pilote.
Pilote comme la Jennifer Yahé?
Oui.
Vous êtes dans une série scientifique?
Oui, oui, je suis en terminale C.
Alors, le regard sur la condition de la jeune fille?
Je pense que de nos jours, il y a plusieurs actions qui sont menées en faveur de l'émancipation des jeunes filles. Je ne pense pas que c'est assez, mais déjà, c'est une bonne initiative d'essayer. Et je pense de ce fait que l'État doit faire encore plus à travers des structures d'encadrement de la jeune fille, des filles déscolarisées.
Alors David, avec vous, on parle de jeunesse. À un moment donné, on veut s'affirmer dans la maison, on veut s'afficher, on veut braver les interdits et tout. Comment doit être la communication entre les parents et les enfants? Parce que c'est dans la famille que tout prend forme réellement. Un regard.
Effectivement, c'est dans la famille que tout prend forme. Eh bien, la relation doit être entre parents, la relation parent-enfant doit être ouverte, sans tabou. Voilà. Mais toutefois...
Vous parlez de tabou, hein? Monsieur Béan va nous dire si c'est évident.
Toutefois, l'enfant a son mot à dire, mais uniquement dans ses intérêts. Uniquement pour défendre ses intérêts. Il a le droit à la parole pour moi, mais uniquement pour défendre ses intérêts. Voilà. Ses intérêts. Et aussi, les parents doivent aussi donner un temps aux enfants pour eux-mêmes. Mais bien entendu, qu'ils soient surveillés. Parce qu'aujourd'hui, en allant sur Internet même, il y a des pages où des enfants ne doivent pas avoir accès. Ils doivent mettre l'accent sur la surveillance de leurs enfants sur Internet.
Ok, monsieur B, on parle de complicité. Ou bien on parle de caporalisme, d'autorité totale. Comment ça fonctionne?
Non, en fait.
Et quelle est votre méthode à vous?
Ce que les enfants doivent comprendre, c'est que la cellule familiale, c'est un tout. La cellule familiale, le père, la mère et les enfants. C'est vrai que généralement, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est ça?
C'est ça.
Voilà. Et donc, pour éviter que votre enfant sombre dans ce décor vraiment qui ne dit pas son nom, il faut d'abord, depuis le bas âge, éduquer ton enfant à avoir un bon comportement, dès le départ, parce que c'est cela. C'est pas la rue qui doit éduquer un enfant, ce sont les parents. Et même quand les enfants vont à l'école, ce que les enseignants donnent aux enfants vient en complément à ce que les parents donnent à la maison pour améliorer davantage leur connaissance de la vie. Et c'est cela.
Il a parlé de communication sans tabou. Vous êtes de la génération d'avant les indépendances. Est-ce que c'est évident?
Sans tabou, ça c'est une importation de l'Occident.
De l'Occident.
Sinon nous, en Afrique, il y a des trucs que les enfants ne doivent pas faire devant les parents. Moi-même, je vous dis quelque chose, ça va vous surprendre.
Ah bon?
Moi, pendant que j'étais fonctionnaire, marié, avec plein d'enfants à la maison, quand mon père vient chez moi à la maison, en ce moment, je fumais. Mais je ne peux pas m'arrêter devant mon papa pour fumer. Pour fumer, quand j'ai envie de fumer, je m'éloigne de lui, je me cache, je finis de fumer, puis je vais m'asseoir. C'est l'éducation qu'on nous a donnée. Mais nos enfants de maintenant, là, pendant qu'ils sont en train de parler, même à leurs parents, là, même, ce qu'ils font là, même, c'est grave. Mais c'est de tout ça qu'il s'agit. Si l'éducation est ratée, il va s'en dire que ça va avoir des répercussions sur le comportement de l'enfant dans la société plus tard.
Ok. Voilà. On parle de culture de la paix, c'est vrai, mais en même temps, il fallait évoquer aussi la communication dans les familles, parce que la culture de la violence a forcément une répercussion vers l'extérieur. Mmh. Au niveau de CDC, qu'est-ce qu'on prévoit ? C'est vrai qu'on est presque à la fin de l'année.
C'est ça.
On a 2025 avec l'année électorale. C'est Vous avez des projections, des perspectives ?
C'est ça.
Allez-y, parlez-nous-en.
Oui, bon, effectivement, nous avons un programme très chargé au niveau du CDC. Parce que dans un premier temps, nous envisageons installer des cellules de paix dans des établissements. Et pour cela, nous allons entreprendre des démarches auprès de la DREN. Et puis, lorsque nous aurons le feu vert, nous allons commencer à installer des différentes cellules de paix dans les établissements, avec pour mission de cultiver l'amour, d'éviter d'avoir des comportements à risque. Dans les écoles, et puis sensibiliser entre eux-mêmes, c'est sensibiliser pour éviter d'avoir des comportements qui peuvent avoir des désagréments au niveau de l'école et de la société.
Ça, c'est pour 2024
jusqu'avant les élections, on aura quand même accompli toutes nos missions, c'est-à-dire aller même installer des points relais dans les quartiers de Yamoussoukro et dans les villages environnants, les points relais qui vont relayer notre mission, c'est-à-dire ce que nous devons divulguer comme information, la culture de la paix, et ceux-là seront chargés de le faire. Même nous-mêmes, en tant que structure centrale, nous serons amenés à faire tout cela ensemble avec les uns et les autres pour que cela porte.
Quand nous avons une dame avec nous, on dit souvent que les femmes ne s'investissent toujours pas ou sont pas très nombreuses dans l'arène concernant la sensibilisation, la participation des femmes en politique et tout. Alors vous, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les femmes, à celles qui ont besoin justement de vous assister, de vous accompagner?
Nous regrettons un peu le fait que les femmes ne soient pas massivement représentées, surtout dans les instances décisionnelles.
C'est dû à quoi?
Parce que c'est là-bas que les décisions se prennent. Et si nous sommes moins représentés, il va sans dire que les décisions qui seront prises ne seront pas toujours en notre faveur. Donc il y a les institutions internationales comme ONU-Femmes, NDI et autres qui encouragent les femmes à s'intéresser à la politique. Et je pense bien qu'il y a des activités même qui rassemblent les jeunes filles déjà dès le lycée pour leur inculquer cette valeur-là, l'amour de la politique. Faire la politique sainement, s'intéresser à la politique pour pouvoir influencer les décisions qui sont prises, pour qu'elles soient aussi naturellement en faveur des femmes.
Et au niveau de certaines pesanteurs, est-ce que vous arrivez à braver cela? Notamment la femme qui doit rester dans le foyer, faire la cuisine. Vous avez dépassé cela. Quel message adresser aux autres femmes?
Oui, nous avons un tout petit peu dépassé cela. Parce que même les femmes qui sont à la cuisine aujourd'hui, elles ont le désir de s'imposer quand même. Et au sein de la famille, elles ont pris conscience de ce qu'elles ont leur mot à dire. C'est vrai qu'il faut trouver le cadre parce qu'on a la conception biologique de la famille naturelle où la femme doit subir, elle doit épauler, elle doit accompagner, elle doit aider. Mais aujourd'hui, j'ai pas les chiffres ici, mais la majorité des femmes ici sont en quête de leur autonomisation. Et une femme qui est autonome est à même de prendre des décisions, la concernant elle-même d'abord, et aussi concernant ses enfants et sa famille. Et du moment où elle arrive à prendre des décisions au niveau basique, au sein de la cellule familiale, si elle veut aller plus loin, elle peut s'intéresser à la politique et puis contribuer à la prise de décision au sein de sa communauté, au niveau de la nation, mais pourquoi pas.
Okay.
Donc c'est une pesanteur qui a été plus ou moins dépassée, mais bon, on n'est pas encore à...
La lutte continue.
Oui, la lutte continue.
Merci infiniment, Madame Yaka ou Adeline. Je rappelle donc que vous êtes de CDC. Monsieur Béa Antoine également, de CDC Yamoussoukro. Il vous arrive de faire le tour de certaines villes de l'intérieur autour de Yamoussoukro?
Oui, nous allons...
Dans votre mission?
Notre mission, c'est d'établir des points réglés, des points focaux au niveau de Atiwakro, Tiebissou, Toumodi. Ça, c'est le point le plus important dans le programme le plus chargé, c'est ça. Installer des points relais, des points focaux pour relayer l'information, pour relayer l'enseignement.
Vos actions, vos activités.
Oui, nos activités.
La fille, on va terminer avec vous avant de revenir pour le mot de la fin avec Mme Yakar. C'est de savoir quelles sont vos attentes concernant la situation de la paix en Côte d'Ivoire, concernant les élections. Quel message vous avez adressé aux jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et puis un message adressé à vos papas, à vos mamans, aux politiciens.
J'encourage déjà la jeunesse à rester dans l'esprit de paix, à être toujours joyeuse, à toujours être une jeunesse de l'hospitalité comme nous l'avons aperçu à la CAN 2023 et de ne pas se laisser manipuler par des opinions politiques. Et enfin, j'aimerais inviter les hommes politiques à toujours privilégier l'intérêt de la nation que l'intérêt personnel.
Intérêt supérieur de la nation. On va passer le micro à Roxane.
Le concept que je voudrais véhiculer en ce jour, c'est plus celui de la responsabilité. J'aimerais à la fois que les jeunes prennent conscience qu'ils sont à la fois d'une part responsables du climat en Côte d'Ivoire, vu que c'est eux qui sont au devant de toutes les actions, et aussi que les dirigeants politiques soient aussi conscients du fait que l'avenir de notre nation dépend en grande partie de leurs décisions. De ce fait, ces décisions devraient être réfléchies et pour le bonheur de tous.
David, avec toi, quelles sont tes attentes, tes espoirs? Un message aux jeunes et un message aux politiques.
Mon message aux jeunes, c'était de rester unis, voilà, de continuer dans leur joyeuse humeur et aussi de ne pas céder à l'incitation à la haine. Et aussi mon message aux hommes politiques, comme Soumaoro a dit, c'est de privilégier d'abord les intérêts de la nation avant tout. Voilà. Et puis aussi de ne pas, comment on dit ça déjà, de ne pas utiliser le népotisme. Voilà, de ne pas utiliser le népotisme. Et puis aussi de ne pas utiliser des formes de discrimination. Aujourd'hui, on voit tel ou tel a dit, on parle de xénophobie, on parle de tribalisme, mais on doit rester unis. Ce qui s'est passé dans les 10 ans de 2000 à 2010 doit nous servir d'exemple. Parce que vu le positionnement de notre pays aujourd'hui, on est positionné comme un leader incontestable d'Afrique de l'Ouest. Après, malgré ces 10 ans de guerre, mais imaginez si on n'avait pas eu ces 10 ans de guerre là où on serait aujourd'hui. Alors, le passé nous sert de repère, comme on dit. Voilà, pour éviter le pire qui s'est produit, on doit rester unis.
Merci Diabaté Yakuba David au Collège Moderne 2 de Yamsoukro. Il était donc sur notre plateau avec Soumaoro Yassine du lycée Mamie Adjoa de Yamsoukro, tout comme Roxane Nissan. Ce sont les élèves avec qui nous avons pu échanger dans un regard croisé. Face à eux, Yaka ou Adeline et Béa Antoine de CDC Yamsoukro. Mot de fin avec M. Béan et puis nous refermerons avec la dame, naturellement, pour épouser tout l'air de la galanterie qui s'impose
tout
aussi.
À fait.
Allez-y.
Bon, voilà. Tout ce que nous voulons dire, c'est que les communautés comprennent que nous nous battons pour que la paix règne entre elles. Parce que les conflits communautaires, ça n'arrange pas le pays. Un pays qui est en conflit, il est impossible pour le développement de ce pays. Parce qu'un pays en guerre, il n'y a pas de développement dans un pays en guerre. Il faut que la paix soit dans ce pays pour amener les investisseurs à venir dans ce pays pour donner du travail à nos enfants. C'est ça qui est la vérité.
Ok. Le mot de fin revient à Mme Adeline Yaka. Allez-y.
Alors, comme mot de fin, nous voulons exhorter tout le monde, toutes les couches socio-professionnelles de la Côte d'Ivoire, à faire le choix de la paix et de la cohésion sociale. Nous ne devons pas laisser une élection nous diviser, nous éloigner de nos objectifs. Et nous voulons aussi que la jeunesse soit engagée à être artisan de paix et de cohésion sociale dans leurs différents milieux, pour que ensemble, nous puissions œuvrer, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, œuvrer pour la stabilité de notre pays, pour le développement, qui d'ailleurs leur sera aussi profitable parce qu'ils sont en formation et c'est l'avenir de notre pays.
Merci donc, chers invités.
C'était Sujet de discussion.